du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, je pense qu'on peut résumer tout le message de Pâques par un extrait de cet épître qu'on vient de lire de saint Paul. Quel conseil qu'il nous donne ? Goûtez les choses d'en haut et ne goûtez pas les choses de la terre. Donc le monde, si vous voulez, va se diviser en deux. Ceux qui cherchent les choses de la terre et ceux qui cherchent les choses du haut. Ceux qui vont lever les yeux vers le ciel, c'est le symbole de la résurrection, pour regarder le ciel où le bon Dieu nous attend, puisqu'il ressuscite d'entre les morts pour pouvoir justement un jour nous accueillir au ciel, puisque par sa mort et sa résurrection, il rouvre les portes du paradis. Ou au contraire, on va être glué à cette terre, glué aux choses terrestres. Et on choisit les choses éternelles, ou on choisit les choses temporelles. Ou on choisit les choses qui passent, ou on choisit les choses qui ne passent jamais. Ou on est viateur, ou on est possesseur. Ou on est viateur, c'est-à-dire où on est pèlerin ici-bas, ou on est un jour possesseur au ciel. Et c'est tout le mystère de Pâques. Le mystère de Pâques, c'est ça, c'est ce que résume très bien Saint-Augustin dit, il y a deux cités, deux amours qui ont fait deux cités, soit l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même qui fait la cité du ciel, soit l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu qui fait la cité de la terre. Et donc, si vous voulez, il va y avoir cette double influence, l'influence d'une part de Dieu qui attire les élus vers lui, vers le ciel, et puis l'influence du démon, du monde, de la chair, des trois concupiscences, qui au contraire essayent de nous empêcher de nous envoler. Donc il y a ceux, les anges et tout le royaume céleste qui nous attirent vers Dieu, donc qui nous obligent en quelque sorte à lever les yeux vers le ciel pour voir ce bon Dieu qui nous attend au ciel, et puis au contraire, le monde qui nous empêche de lever les yeux, qui au contraire ne demande qu'une seule chose, c'est de nous, littéralement, de nous coller à cette terre pour que nous soyons incapables justement d'élever les yeux pour voir le bon Dieu. Et donc il va y avoir ce combat terrible, c'est ce qui va être dit pendant la séquence qu'on va commencer à dire à partir d'aujourd'hui pour la messe du jour, Victime et Pascal et Laodès. Il est dit que la mort et la vie se sont livrés un combat stupéfiant. Tout le combat de ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ contre ceux qui aiment le démon. Ceux qui veulent aller au ciel et ceux qui veulent rester ici-bas sur la terre. Et cela doit nous aider en quelque sorte justement à voir l'importance pour nous de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument que notre cœur soit attiré vers le bon Dieu. Donc il faut se poser cette question, cette nuit de Noël, vers quoi est attiré mon cœur? C'est-à-dire sous d'autres termes, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Est-ce que ce sont les choses de la terre ou les choses du ciel? Et c'est affolant quand on parle parfois, même avec des catholiques, quand on leur demande, mais quelle est la chose la plus importante pour vous? Eh bien, on se rend très bien compte qu'on vit sur deux planètes différentes avec les gens du monde, même les catholiques qui ont l'esprit mondain, parce qu'on ne cherche pas les mêmes choses. Si notre cœur est attiré par les choses de la terre, eh bien, on va rejoindre les choses de la terre. Si au contraire, notre cœur est attiré par les choses du monde, alors à ce moment-là, on peut... Au contraire, je veux dire, si notre cœur est attiré vers les choses du ciel, alors nous lèverons automatiquement les yeux vers le ciel pour voir notre Seigneur. Ça m'arrivait souvent quand j'étais dans les écoles, quand j'enseignais dans les écoles, ou quand je prêchais pour des grands étudiants de première terminale d'université, je leur posais souvent cette question en privé, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et vous ne voulez jamais répondre à la question. Et il fallait que j'insiste, en privé. Je leur disais, ne vous inquiétez pas, je garderai votre réponse pour moi. Je ne vais pas aller dire ça au directeur de l'école. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous? Et puis, ils étaient obligés de répondre. En général, la réponse, c'était ce qui est le plus important pour les hommes, c'était ma voiture. Pour les femmes, c'était mon aspect extérieur, le way I look. Après, je leur disais, très bien, numéro 2. Ah, ils me disaient, le numéro 2, c'est mon ordinateur. Et numéro 3. Ben, numéro 3, c'est mon pays. Et numéro 4. Elle me disait, ah, monsieur l'abbé, je suis un bon catholique, le numéro 4, c'est le bon Dieu. Je dis donc, vous avez d'abord trois faux dieux, et finalement un vrai Dieu. Et vous adhérez d'abord, vous adorez d'abord vous-même, votre voiture, votre ordinateur, votre pays. Et ces trois faux dieux, vous voulez les mettre au-dessus du vrai Dieu. J'essaie de leur faire comprendre, je dis, mais comment voulez-vous qu'on arrive à reconstituer un État chrétien avec des principes pareils? Et donc je crois qu'il faut utiliser cette fête de Pâques pour nous rappeler, pour remettre de l'ordre, je dirais, dans nos affections. Bien sûr, nous avons le droit d'aimer les choses de ce monde, à condition que ça soit raisonné. Entre époux, vous devez vous aimer mutuellement, c'est absolument évident. Mais il faut que même entre époux, vous compreniez que Dieu passe avant. C'est-à-dire que si un jour, malheureusement, il y a un choix à faire entre mon époux, mon épouse, le bon Dieu, ben je prends le bon Dieu, évidemment. Et sinon, on en arrive à des absurdités. Je me rappelle cet exemple que j'avais vu aux États-Unis. Je ne l'avais pas cru quand on me l'avait dit. Puis un jour, on m'a envoyé la photo. Une dame qui était tellement accro à sa voiture. Elle avait une Cadillac, je me rappelle. La Cadillac, c'était son Dieu. Et donc, dans son testament, elle a demandé à être enterrée dans sa Cadillac. Et on m'a montré la photo d'une grue qui était venue jusqu'au cimetière. Ils avaient creusé une grande fosse, ils ont enterré la Cadillac avec le cercueil dans la Cadillac pour cette pauvre femme. Son Dieu, c'était la voiture. Alors qu'au contraire, si pour nous notre Seigneur Jésus-Christ est tout, à ce moment-là, tout reprend son véritable sens. Attention, le bon Dieu ne vous demande pas de vivre comme des moines ici-bas, ce n'est pas ce qu'il vous demande. Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre uniquement pour Dieu et d'oublier complètement les choses de ce monde. Ce n'est pas ce qu'il vous demande, parce que vous avez à vivre aussi dans ce monde. Mais il faut garder une hiérarchie des valeurs. D'abord les choses importantes, notre Seigneur Jésus-Christ, puis ensuite les choses de ce monde. Voilà ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on a compris ces choses-là, à ce moment-là, tout ce qui tourne autour de nous va être utilisé, si vous voulez, pour élever, amener les âmes vers le ciel. On rencontre parfois, c'est assez rare, des âmes pour lesquelles Dieu est tout. C'est mon Seigneur et mon tout. Mon Seigneur et mon Dieu, la prière de saint Thomas. Et quand on rencontre des âmes comme ça, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une âme de ce genre. Un jeune homme qui était atteint de myopathie. Une dégénérescence terrible des muscles. Les muscles fondent littéralement. Il est mort très jeune, il est mort à 22 ans. Et comme il savait qu'il avait peu de temps, il a voulu faire du bien des derniers jours, des derniers mois de sa vie. Et alors que toute la famille pleurait parce qu'il savait qu'ils étaient en train de le perdre, lui, il remontait le moral de tout le monde dans l'hôpital. Il a voulu faire, ça m'a beaucoup frappé, c'est sa mère qui m'a raconté cette histoire-là. Une histoire extraordinaire. Il avait remarqué, par exemple, que les deux infirmières qui s'occupaient de lui, parce qu'il était complètement paralysé, il ne pouvait plus rien faire. Avec deux infirmières s'occupent de lui constamment pour le faire manger, pour tous les soins corporels, etc. Et il avait remarqué que ces deux infirmières étaient toujours en train de se disputer. Et quelques heures avant sa mort, elles étaient à côté de lui, l'une à droite, une à gauche, pour s'occuper de lui. Et il leur a dit, prenez ma main. Et chaque infirmière a pris la main. Une a pris la main droite, l'autre a pris la main gauche. Et il a dit, maintenant, vous croisez vos mains sur ma poitrine. Ils ont croisé comme ça les mains sur la poitrine du jeune homme qui est en train de mourir. Il leur a dit, maintenant vous allez me promettre que vous allez arrêter de vous battre et de vous disputer comme ça. Et puis il est mort. Et ça a tellement frappé ces femmes, c'est elles qui nous racontaient après leur mère, la mère de l'enfant, qu'elles ont arrêté de se battre. Vous voyez, ça c'est une âme qui s'approche du bon Dieu. Quand une âme s'approche du bon Dieu, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à monter les gens qui sont autour d'elle vers le bon Dieu. On dit que lorsqu'une mère de famille, un père de famille monte au ciel, il amène ses enfants avec lui. Malheureusement, lorsqu'un père de famille ou qu'une mère de famille tombe en enfer, en général, ils ne tombent pas tout seuls. Je pense que c'est ça le grand message de Pâques. Mettre son cœur avec Dieu et le détacher des choses de ce monde. Et on le voit très bien aussi dans les deux évangiles, l'évangile d'aujourd'hui et l'évangile que je dirai dans quelques heures pour la messe du jour. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, par son ange, parce qu'il va utiliser un ange pour annoncer sa résurrection, comment il va parler de façon complètement différente à ceux qui cherchent Dieu et à ceux qui ne cherchent pas Dieu. On verra Sainte Marie-Madeleine qui vient au tombeau pour donner suivre les dernières traditions pour embaumer le corps. Elle croyait, elle avait complètement oublié que notre Seigneur avait dit que le troisième jour ressusciterait d'entre les morts. Donc elles viennent avec les saintes femmes, elles viennent au tombeau. Et qu'est-ce qu'elles vont trouver? Au tombeau, elles vont trouver un ange qui est là. Qu'est-ce que va leur dire l'ange? Ne craignez pas, parce que je sais que vous cherchez Dieu. Donc quand on cherche Dieu, on n'a pas à craindre. Au contraire, ce même ange, puisque c'est cet ange qui a du bout de son aile déplacé la pierre du tombeau devant les soldats romains qui gardaient le tombeau, l'ange n'a même pas adressé la parole à ceux qui gardaient le tombeau. Il adresse la parole aux saintes femmes parce qu'elles cherchent Dieu. Mais il savait, cet ange, parce qu'il était envoyé par Dieu, il savait que les soldats, eux, ne cherchaient pas Dieu. Donc il n'adresse pas la parole. Et l'évangile nous dit que les soldats étaient complètement paniqués, vont tomber en arrière, complètement paniqués par ce qu'ils voient. Et lorsqu'ils vont finalement reprendre leur sens, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, quand on cherche Dieu, l'ange nous dit, ne craignez pas. Par contre, lorsqu'on ne cherche pas Dieu, alors à ce moment-là, on peut craindre. Et on voit ça pendant toute la Passion. Lorsque Pilate pose une question à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette phrase terrible dans l'Évangile, « Jésus autem tacebat », Jésus se taisait. Donc Jésus parle à ceux qui le cherchent, à ceux qui refusent de le chercher, qui refusent de le voir roi de leur cœur, à ce moment-là, bon Dieu se tait. Donc prions, mes bien chers frères, bien chers amis, pendant cette fête de Pâques, prions pour que le bon Dieu n'ait jamais à se taire avec nous, mais qu'il ait au contraire à nous parler pour que nous ne craignions pas. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous parle, si notre Seigneur Jésus-Christ se rappelle à nous, à notre bon souvenir, à ce moment-là, nous comprendrons qu'il est au ciel et qu'il nous attend là-haut. Donc la fête de Pâques, pour un catholique qui vit en état de grâce, c'est une fête d'une joie extraordinaire. Au contraire, la fête de Pâques pour quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, c'est l'abomination, littéralement. Pourquoi? Parce que la fête de Pâques, c'est la preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et donc la preuve de sa divinité, ce dont le monde ne veut plus. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette nuit de Pâques de savoir toujours bien choisir. Et posons-nous cette question, vers quoi va mon cœur? Qu'est-ce qui est numéro un dans ma vie? Encore une fois, je ne vous demande pas d'aller vous mettre au sommet d'un arbre ou dans une grotte pour faire pénitence jusqu'à la fin de vos jours. Ce n'est pas ce que le bon Dieu nous demande. Mais le bon Dieu nous demande de mettre sa divinité comme la chose la plus importante dans notre vie. Et une fois qu'on a mis la chose la plus importante là où elle doit être, c'est-à-dire en numéro un, à ce moment-là, tout le reste va tomber en place automatiquement. Et c'est toute la division dans le monde moderne. Ceux qui mettent notre Seigneur Jésus-Christ en première place, et à ce moment-là, ils vont avoir aussi tout le reste par surcroît. Et ceux qui mettent les choses matérielles en première place, et alors là, ils perdent Dieu. On peut avoir Dieu et les choses matérielles à condition qu'on passe Dieu avant les choses matérielles. Mais si on place les choses matérielles avant Dieu, on perd complètement Dieu. Voilà le message de Pâques. Alors demandons. Eh bien, chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses qui sont, il faut bien avouer ce qui est, qui sont un peu mystérieuses. On a bien du mal à comprendre toutes ces choses-là. D'ailleurs, on voit bien avec les apôtres, ils n'ont pas tout compris. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait pourtant annoncé. On a lu il y a quelques minutes, pendant la Vigile Pascale, cette prophétie d'Osée, donc un des prophètes de l'Ancien Testament, qui, des centaines et des centaines d'années avant notre Seigneur Jésus-Christ, parle déjà de la résurrection du troisième jour. Malheureusement, le monde ne veut pas entendre ces choses-là. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors cela doit nous donner une joie extraordinaire, même si autour de nous tout s'écroule. Parce que nous savons que nous nous battons pour quelque chose. Et nous savons très bien qu'avec la grâce du bon Dieu, le jour où nous mourrons en paraissant devant mon Dieu, bien nous aurons quelque chose à lui offrir. C'est ça le drame de ces milliers de personnes qui meurent aujourd'hui, qui vont paraître devant Dieu, qui n'auront rien à donner parce qu'ils ont les mains vides. Et lorsque le bon Dieu va leur dire, rends compte de ta gestion, qu'as-tu fait de tous les dons que je t'ai donnés, ils n'auront rien à dire. Alors demandons justement à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Notre Sainte Vierge Marie, s'il y avait une qui avait une hiérarchie des valeurs, c'est bien elle. Elle avait compris qu'il fallait qu'elle mette son fils au-dessus de tout. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle a venu participer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, précisément parce qu'elle avait voulu placer son fils au-dessus de tout. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie de garder dans notre cœur cette joie extraordinaire. Cette joie extraordinaire que le monde ne peut pas donner. Parce que le monde est incapable de donner cette joie. Qu'est-ce que fait le monde? Il cherche des joies matérielles. Ils vont essayer de se noyer littéralement dans les plaisirs du monde. Ils perdent tout. Nous, au contraire, si nous gardons cette joie de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, nous pourrons un jour participer à sa gloire au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.